Qu'est-ce qu'on déguste ? Vous est présenté par Vinovali, union des caves de Fronton, de Técou, des Côtes d'Olt et des vignerons d'Or à Bastens. Vinovali, les vignerons d'Ovalie.
Hola. Hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Ce qu'est-ce qu'on déguste est un qu'est-ce qu'on déguste spécial printemps du Brulois. Le printemps du Brulois, c'est les 16 et 17 mai prochains. Et pour l'occasion, eh bien, l'équipe de qu'est-ce qu'on déguste s'est déplacée à l'invitation des vignerons du Brulois jusqu'à la cave de Donzac. On est accueillis par Oriane Bonnet, que vous connaissez déjà, qui intervient souvent dans cette émission pour nous présenter. Dès qu'il y a une nouveauté dans les vins du Brulois, elle vient à la radio nous les présenter. Ce que vous connaissez peut-être moins, bien qu'on en ait déjà parlé à l'antenne, eh bien, c'est le président et le vice-président. Michel Delpech, c'est le président, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Et Guy Riguesso, bonjour, vous êtes vice-président des vignerons du Brulois.
Bonjour.
Merci, on est confortablement installé avec Pascal Olivier, salut.
Salut à tous.
Avec Christophe Boris, salut.
Bonsoir tout le monde, on est bien là.
On est pas mal, hein. Aurélien est à la technique et on a déjà, en fait, commencé par se rincer le gosier au jus de raisin. Parce qu'on s'est dit que c'était bien de commencer avec un petit
frais,
jus de raisin.
C'est plutôt rare en plus.
Mais c'est vrai.
Mais toi, mais on a fait la visite de la cave. On a fait la visite de la cave. Ça nous a donné soif. Donc là, j'avais vu effectivement qu'il y avait un pur jus de raisin pasteurisé du Cabernet Sauvignon avec une très belle couleur. J'ai dit, on va goûter ça et la bouteille est finie.
Eh ben oui.
C'est magnifique. Bien. C'est très 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 beau produit.
Alors on va à l'occasion de ce printemps du Brulois, découvrir ou redécouvrir. Les vignerons du Brulois au travers de leur vin et au travers aussi des vignerons, puisque vous êtes vignerons, hein, messieurs Guy et Michel, tous les deux. Hein,
tout à fait, personne n'est parfait depuis 45 ans à peu près.
Depuis 45 ans. On avait reçu il y a quoi, un an de cela à peu près, votre fils,
Laurent.
Laurent Delpech, qui était venu nous présenter le domaine Bellecasse. Je me rappelle très bien de cette dégustation pour
un bio d'abord.
Deux raisons, parce que il n'y avait pas d'étiquette sur son vin moment-là.
On a vu de l'expérimental.
Et il nous a chanté une chanson en occitan.
Ouais, c'était génial.
Ouais, c'était super.
On va
chouette.
Lui dire bonjour s'il nous écoute là. Il peut revenir quand il veut.
Le berger à la bergère.
Oui.
Et je me demande du coup si tient ça de son père et peut-être qu'on aura une chanson en occitan de Michel Delpech.
J'étais pas venu pour ça. Mais...
Allez, c'est qu'est-ce qu'on déguste et ça commence comme ça.
L'amour en bulle alors.
Alors, on boit l'amour en bulle.
Ouais, c'est un pétillant sec obtenu par adjonction d'anhydride carbonique.
Gaz carbonique.
C'est comme du grain d'amour gazeux, finalement.
Non. Non.
C'est pas du tout du grain d'amour. Hein.
Si tu veux, c'est une base de souvenir de Provençal avec 5% de muscat de Hambourg, ce qui te donne la couleur rosée.
D'accord.
Mais c'est plus une base de blanc avec du muscat de Hambourg que vraiment du 100% muscat de Hambourg comme le grain d'amour.
C'est un truc fait pour les filles, ça, ou
l'amour en bulle.
Ouais, l'amour en bulle. C'est pour les
qui c'est qui est au marketing, qui c'est qui a trouvé le nom là.
Le nom, c'est Carole.
Carole.
On l'avait imaginé, mais Carole a dit ça, il faut garder ça.
Qui c'est Carole?
Carole, c'est notre ancien agent du Québec.
Hey, c'est pas commercial.
Ah,
c'est
parce
sec,
que...
c'est pas du tout sirupeux.
J'allais dire, c'est pas quand même des filles, parce que j'ai vu des gaillards qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça très bon. Donc,
écoutez, c'est meilleur
c'est
que
sucré.
Le. Ouais, dans le style bulle, c'est quand même meilleur que le Perrier. Donc la tranche. Mais non, c'est bien. C'est...
La barre est pas très haute, même.
C'est frais, c'est bien. C'est en fait non. La couleur pourrait laisser supposer que c'est un truc un peu. Mais bon.
Ouais. Comme il y a du muscat de Hambourg, effectivement, on n'est pas sur une pression de rosé, si tu veux, traditionnelle. C'est normal que la couleur est un petit peu plus.
On a fait un truc avec des bulles, mais avec. C'est surtout le vin qu'on a voulu mettre. On a voulu que le vin ressorte plus que
que la bulle.
Le consommateur trouve le goût du vin, quoi, réellement.
bon petit morceau de jazzy avec une base drum and bass derrière. C'était le trio allemand Trubi Trio avec le morceau Go Go.
Et pendant ce temps-là, on n'a qu'à trinquer avec L'Amour en Bulle.
L'Amour en Bulle.
C'est un vin qui aurait pu s'appeler, pourquoi pas, Love Bubble, puisque c'est un peu au marché américain qui s'adresse, mais au marché américain francophone, si j'ai bien compris. Parce que ça part au Canada, ça, L'Amour en Bulle, non?
Pas encore.
Au Québec. Bah, au Canada,
Québec. Peut-être ça va venir, pour l'instant, ouais. Il n'y est pas encore, celui-là.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est le genre de cuvée qui a été plutôt faite pour le marché export.
Ouais.
C'est plutôt l'export qui en demande, on va dire, de ce genre de cuvée. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, nos petits Français des magasins l'aiment beaucoup. Donc on est content.
En 3 mois, ça a sorti à l'automne. Les 3 derniers mois de l'année 2014, on a vendu autant de bouteilles qu'on faisait avant en
vin-crément. En méthode traditionnelle.
En méthode traditionnelle dans l'année. C'est-à-dire en 3 mois, on a fait les mêmes ventes, alors que c'est un nouveau produit, quoi. C'est tout nouveau. Quoi.
Ouais.
Donc, a priori, on ne cherchait pas à faire quelque chose qui se fait déjà. Quoi. On essayait de faire quelque chose qui soit un peu en dehors des sentiers battus. Quoi. C'est...
Combien elle sort en magasin, cette bouteille?
8,80.
Oui, donc c'est très bien placé en niveau prix. Hein. Voilà. Oui, c'est un peu plus cher que du Perrier, quand même, là, encore. Je ne suis pas payé par Perrier.
Alors, donc, vous venez d'arriver, vous étiez un peu en retard. C'est pas grave, on va tout vous réexpliquer. Le printemps du Brulois, c'est les 16 et 17 mai. À cette occasion-là, avec l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste, on a été invité à faire cette émission. Depuis le caveau des vignerons du Brulois, on est donc à Donzac. Il faut voir qu'il y a deux caveaux, en fait. Il y a ici où on est à la cave à Donzac. Et puis,
dans
il y a,
le Tarn-et-Garonne.
Voilà. Et puis il y a l'Érac dans
le Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne.
Avant d'aller plus loin, on va reposer les bonnes bases. Le Brulois, quand on va sur votre site internet, il y a une petite vidéo qui le présente comme un peu un des plus vieux vignobles de France. Hein.
C'est un très vieux vignoble. Pour dire que c'est le plus vieux, je ne pensais pas, on n'a pas cette prétention, mais c'est vrai que c'est un très vieux vignoble. On a des traces de son existence qui remontent à très loin. On a aussi la trace de son existence. Il aurait été consommé, il a été consommé à la cour d'Angleterre pendant les guerres de 100 ans, puisque les Anglais étaient chez nous ou dans la région. Et il était consommé à la table de Jean Santerre. Il avait été appelé, c'est à partir de là qu'on peut retrouver le nom de vin noir, consommé à la cour de Jean Santerre, donc qui était le frère de Richard Cœur de Lion. Et donc voilà, on sait qu'il y a des traces qui remontent quand même.
Oui, puisque là vous avez la Garonne qui coule au pied des vignes. Donc
voilà, on a la Garonne qui coule au pied de.
Donc, qui permettait de remonter le vin vers Bordeaux, oui, et puis ensuite. Voilà.
Alors Nouvelle était. Vous avez vu, il y a des gabarres ici dans cette pièce, des images de gabarres. Et les gabarres en avaient le droit de descendre, les gabarres du Brulois ou d'ailleurs, du haut pays, parce que les Bordelais considéraient que les vins hors Bordeaux étaient les gens du haut pays. Et les gabarres du haut pays, dans du Vaudois, n'avaient le droit de descendre que quand tous les vins de Bordeaux avaient fini d'être vendus. C'est-à-dire que quand Bordeaux n'avait plus de vin à vendre, nous, on pouvait descendre avec les gabarres, sinon nos gabarres étaient coulés. C'était.
Oui, mais d'après ce qu'on dit, c'est que le Bordeaux importait des vins colorés. Donc Cahors et ici Brulois, pour donner un petit peu de couleur au vin de Bordeaux qui en manquait de temps en temps.
Oui, c'est vrai que c'était des vins qui étaient un peu médecins, on appelait ça comme ça, oui. Oui, oui. Mais bon, on ne pouvait pas trop naviguer les vins tant que Bordeaux n'avait pas fini de vendre ses vins à l'export, en fait, en réalité, parce qu'il partait beaucoup dans les pays du Nord. Donc,
voilà. Aujourd'hui, ça part toujours par bateau ou ça part par...
Les vins qu'on exporte, disons...
au Québec.
Au Québec, par exemple.
Ça part par bateau.
Ça part dans des containers et par bateau, oui, tout à fait. Oui.
D'accord. C'est un gros marché, le Québec, pour vous? On en a souvent parlé,
L'export, ça représente 35 et 40%, et le Québec, entre 30 et 35%, quoi.
Oui, c'est quand même un gros marché.
Oui, un très gros marché.
On en a déjà parlé, mais comment c'est arrivé, ça, cette histoire de
on va y revenir après. Attends, on est au début, là. Les vignerons du Brulois, combien de vignerons, combien d'hectares?
Mais où tout est-ce le monde que ça le sait, une... ça.
Non, non, non. Bon,
allez, on revient au basique.
On revient au basique et on reviendra tout à l'heure, de toute manière, à l'occasion d'une autre dégustation, parce que je pense que le Béaba, il part au Québec aussi, non?
Oui, hein, donc, le Béaba blanc, il part au Québec.
Comme tout à l'heure, on boira du Béaba blanc.
Le nom Carolo.
Carolo des Amas, mais c'est le même, ouais. C'est le même produit.
Donc, combien de vignerons?
Environ 80 vignerons.
Ouais. 80 pourquoi vignerons environ?
Eh bien, parce qu'il y a des années où il y en a deux ou trois de plus et des années où il y en a deux ou trois de moins.
D'accord. Voilà. Donc, alors, environ 80.
On va dire, il y en a 80. Il y en a qui arrêtent.
Tout en AOC, qui... Michel? Ou non?
Non, il doit y avoir une cinquantaine de vignerons AOC. Quoi. Les autres, c'est des gens qui font du béaba, qui font des...
Qui sont plus localisés sur le
Tarn-et-Garonne. Que des muscats, d'ailleurs, pour faire les graines d'amour.
Qui sont plus localisés sur le Tarn-et-Garonne ou sur le Lot-et-Garonne? Puisque mais le Brulois va couvrir trois départements. Le Gers,
oui, le Brulois est sur trois départements. Alors, essentiellement, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne. Gers, très peu, parce qu'il y a très peu de communes, d'abord, et très peu de vignes. Et il y a eu un rééquilibrage depuis 5 ou 6 ans entre le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Je pense qu'on pourrait dire entre 60-40 grosso modo pour le Tarn-et-Garonne. Mais il y a eu un rééquilibrage. C'était plutôt 70-30. Il y a eu pas mal d'arrachages en Tarn-et-Garonne et des plantations dans le Lot-et-Garonne.
Combien de vignerons de l'appellation géographique font leur vin sur leur domaine propre
Les vignerons que nous on appelle les vignerons indépendants ou des vignerons qui vinifient chez eux, il y a 6 embouteilleurs qui font de la mise en bouteille, donc ils sont répartis sur le Lot-et-Garonne ou le Tarn-et-Garonne. Et il y a des vignerons aussi qui font du vin mais qui vendent à mini-cave ou à la tireuse, etc. Il doit y en avoir au moins autant. Je pense qu'en tout, il y en a une bonne douzaine en tout.
Donc, des gens qui ne participent pas
qui ne viennent pas à la coopérative. On a de très bonnes relations avec eux.
Mais il y a quelques vignerons qui aussi font un peu les deux. Ils participent aussi
Non, Cabrel fait tout seul. C'était chez lui. Il était au début de où il a planté des vignes. Il vinifiait chez nous, et c'est la cave qui faisait la mise en bouteille et tout, mais maintenant il a sa propre cave. Il y aurait la possibilité, mais pour l'instant.
On parle de Francis Cabrel,
qui vient de sortir un album.
Ouais.
Oui. Et un vin aussi, je crois.
Encore?
Me semble.
Est-ce que quand tu achètes l'album, tu as.
Eh bien, je pense que quand canette. Tu achètes une bouteille, tu as l'album en prime, ou vice versa.
Donc, vous avez un fonctionnement de cave coopérative avec, des techniciens, des œnologues,
oui, avec,
tout ce qu'il faut, et vous demandez après à vos adhérents de faire plutôt tel raisin, tel cépage, de telle et telle manière.
Alors on a 21 salariés aussi à la CAM, il faut le savoir.
Oui.
Donc c'est pas neutre. Oui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vend toute notre production nous-mêmes, c'est-à-dire on fait pas de, il y a pas de vente en gros, c'est-à-dire il y a pas, on fait que de la bouteille ou un peu de mini cave. Vous avez vu tout à l'heure quand vous avez visité la cave. Donc il faut tout vendre. Et bon,
la production, de travail. Vous m'avez dit, c'est 1 million de bouteilles.
En gros, c'est 1 million de bouteilles.
Donc, il faut vendre 1 million de bouteilles à l'année.
Voilà, il faut trouver 1 million de personnes qui font le geste que vous avez fait tout à l'heure.
D'accord.
Voilà.
Mais c'est pas une paille, c'est pas anodin quand même.
C'est pas énorme, mais il faut le faire pour une petite entreprise comme ça.
Et donc vous les trouvez ici localement et au Québec, un peu en Belgique
un peu dans d'autres pays comme la Belgique, comme la Chine.
La Bretagne, à l'étranger,
quelques pays du Nord, oui, effectivement.
Et ça, comment vous attaquez ces marchés-là? C'est des gens comme Oriane qui vont.
On a deux commerciales export et deux commerciaux
France.
Donc Oriane et Frédéric. Pour la France, donc Frédéric plutôt pour le local et Oriane un peu plus pour l'extérieur et pour la Bretagne.
Et la grande distribution.
Et un peu, et la, un peu la GD locale, ouais.
Et du coup, ça passe par quoi? C'est des salons, c'est des visites, c'est quoi?
Ben, l'export, on va dire, c'est effectivement des salons professionnels qui sont très importants pour eux, notamment Provine ou après d'autres.
Ça, c'est en Allemagne, Provine.
Ouais, Provine, c'est en Allemagne, ça s'est fait il y a un petit mois. Et puis ensuite, comme Vinexpo ou Vinisud, voilà. Et puis après, sinon, après, c'est des regroupements d'affaires qui sont faits par les pays eux-mêmes. Enfin, voilà. Et puis sinon, après, c'est de la prospection commerciale, des agents commerciaux. On va dire que, nous, on fait plus du travail vraiment en direct sur le marché français. L'export, c'est un petit peu différent.
Donc, est-ce le marché français, c'est plus des, par exemple, des grands magasins, la grande distribution. Est-ce que c'est des cavistes? Est-ce que c'est des restaurants?
Nous, on a un plus fort marché sur le circuit traditionnel que sur la grande distribution. La grande distribution, pour les vignerons du Brûlois, c'est à peine 15%.
D'accord.
C'est pas vraiment le gros du marché. Le gros du marché, c'est le circuit traditionnel, les cavistes, les restaurants et les grossistes.
Est-ce que les commerciaux font redescendre aussi les déshydratats des consommateurs vers ensuite la cave du Brûlois?
Ah ben c'est une obligation même. Ouais. On est en constance collaboration avec alors un petit peu moins avec nos viticulteurs, mais plus avec nos œnologues. Ouais. Oui, tout le temps. Tout le temps, dès qu'on a des surtout quand on est sur des démarrages de millésimes comme il y a quelques semaines et voire quelques mois, c'est important.
On a changé, on est au 1808. Alors, 1808.
2014.
Alors. Bon rosé.
Qui c'est qui nous le présente celui-là?
Guy?
Allez, monsieur le vice-président, non?
Tu connais pas, c'est pas juste.
Ah bah alors.
Cavernier Malbec,
Merlot.
Pourquoi 1808 déjà? Tu nous l'avais expliqué, mais je ne me rappelle pas.
Date de la création du Tarn-et-Garonne.
Oui, il y a toute une gamme en rosé, en rouge.
Il y en a sorti cette bouteille avec cette date, on va dire, pour le bicentenaire. Et puis ça a plu à certaines personnes qui ont dit c'est facile à repérer, c'est facile à acheter. Voilà. Sur l'Extrême-Orient aussi, le 8 est un chiffre porte-bonheur. Et il y avait des personnes qui nous avaient fait remarquer qu'ils attachaient de l'importance au fait qu'il y avait deux 8
Hop, une ouverture vers le marché de l'Extrême-Orient. Avec le 1808.
Pour l'instant, non, mais...
Pourquoi pas,
on est open, quoi.
Voilà, c'est pour ça que vous avez conservé...
On l'a conservé jusqu'à aujourd'hui, peut-être ça changera.
Bon, voilà, un petit rosé qui va bien, moi j'aime bien parce qu'il est sec. Voilà,
on est sur des rosés très secs, généralement, dans le
Brûlois. Il est sec, un rosé foncé.
Ouais.
Il n'est pas trop foncé, mais là on est dans une pièce un petit peu foncée.
Saumon.
Ouais, on est toujours sur des notes un petit peu saumonées de toute façon dans le Brûlois, effectivement. On n'a pas le côté rose pâle que peuvent avoir des.
Là encore
des
une fois, alors rosé de pressé ou rosé de saigné?
Rosé de pressé.
Et c'est du parcellaire, c'est-à-dire que vous choisissez à l'avance quel vigneron sur quelle parcelle va faire des raisins pour faire ça.
Là, on est plutôt, je pense, sur la qualité des raisins. On ne fait pas forcément de la parcellaire réellement, si.
Aussi.
Sur 1808.
Disons que Gilles Bénac fait le tour avec Roger et Val, viticulteur.
Dans tous les cas, ils sélectionnent...
Ils retiennent les parcelles qui sont susceptibles, en fonction du cépage et de la qualité des raisins, de faire des rosés. Alors, rosé, ce rosé, le 1808, ou le Carlo, c'est le même.
Oui, c'est le même.
En gros, hein. Et ils retiennent les parcelles. Et quand on vendange, ces parcelles qui ont été sélectionnées, on sait le jour où elles vont être vendangées et à l'heure où elles vont être vendangées, spécialement pour des rosés, puisque les rosés, on vendange le matin très à bonne heure, de façon à avoir des vendanges fraîches. Donc, c'est pour ça que, préalablement, on sait à 95 ou 98% que ça va faire du rosé. Ça va faire telle parcelle fera du rosé.
C'est à cela que tu veux dire la sélection parcellaire.
Oui, c'est ça. C'est d'accord. pas je mets tout dans une cuve, je goûte et je fais ça. Voilà. C'est prévu à l'avance, même, c'est une vraie démarche.
Même, je pense, dans les plus grosses caves coopératives, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus.
Je vous propose une petite pause musicale. On va avoir une douce pensée pour Georges Bonfils, qui habituellement...
Tu penses pas que ça serait à lui de penser à nous? Lui qui est au Club Med.
Oui, non, mais regarde, à cette heure-ci, il est effectivement sur un bateau du Club Med, un très beau bateau. Mais il travaille, il joue de la contrebasse en ce moment.
De la basse électrique. Il a même pas emporté sa contrebasse, il a acheté une basse électrique.
C'est vrai.
Et il se met à faire de l'électro maintenant.
Oui,
les gens.
Il va faire de l'électro-funk. Alors,
il va te piquer ta rubrique.
Alors qu'il est, il est accroché à une bouée et il apprend à faire de la brasse.
On écoute.
Peut-être dans la piscine du bateau.
Roy Arcrow, on écoute. Ça vient de Dallas avec un morceau qui s'appelle Devil Eyes, sorti en 2006.
En version jazz classique, le morceau Devil Eyes, à savoir que des fois on l'avait écouté avec le projet RH Factor, dans la même émission dans la Qu'est-ce qu'on déguste, son projet plus funk électro. Roy Hargrove.
Qu'est-ce qu'on déguste, spécial printemps du Brulois, ce sera les 16 et 17 mai que les vignerons du Brulois fêteront le printemps. On va regarder le détail du programme tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai une question, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui fait, et Monsieur le Vice-président, hein, Michel Delpech ou Guy Righesso,
il fait son timide, Guy.
Qu'est-ce qui fait que, alors que des caves coopératives ont disparu il y a quelques années de cela en arrière, qu'est-ce qui fait que le Brulois, les caves du Brulois, les vignerons du Brulois ont continué d'exister?
Parce qu'ils ont des bons commerciaux.
je crois que...
C'est vrai, c'est vrai. Qui viennent d'anciennes caves.
Je crois qu'Oriane a donné en rigolant ou en plaisantant une partie de la réponse.
Exactement.
Parce que bon, ce qui fait, c'est qu'il faut être vraiment très, très accroché à ce qu'on fait et à ce qu'on pense et ne pas dévier. Et je pense que le fait, entre autres, d'avoir des commerciaux d'abord et des bons commerciaux aussi, ça participe au fait qu'on n'est pas disparu. Parce que c'est bien de faire du vin, d'essayer de le faire le mieux possible. Mais si on ne sait pas le vendre, et notre problème, et le problème malheureusement de ceux qui peut-être ont disparu, c'est que on avait du mal à le vendre, et on ne savait pas le vendre, et il ne restait pas de sous pour les producteurs non plus. Quoi.
J'irai au-delà de ça pour avoir, on va dire, connu la perte de caves coopératives proches. Je pense qu'il y a en fait, au-delà de rien que le service commercial, il y a surtout l'interaction qui puisse y avoir entre la production, entre, enfin, on va dire le ramassage de raisins, la production et la commercialisation. S'il n'y a pas cette interaction et le marketing qui est hyper important, faut pas se voiler la face. S'il n'y a pas cette interaction là, ça ne fonctionne pas. C'est clair.
Je crois que le rôle d'un conseil d'administration et d'un président, c'est de monter une équipe qui fasse ce que dit Oriane. C'est-à-dire
avoir sa confiance.
Et puis alors il y a ça, mais derrière, effectivement, du coup, il y a une équipe qui fonctionne, mais pour un projet. Et un projet qui a été aussi, on le voit quand on est assis ici dans une arrière-salle derrière votre caveau, et derrière Pascal Olivier, on verra peut-être les photos sur la page Facebook ou sur le site internet cfmradio.fr, mais il y a toute la gamme. Il y a 14 qui sont les unes derrière les autres, et on peut constater que ça a été rajeuni. On va dire le vin qui a on va dire l'étiquette la plus ancienne, le truc à l'ancienne, c'est le Château Grandchêne peut-être, hein,
qui a été rajeuni
l'année dernière.
Et le reste, on a le 1808 avec ces 8 qui s'entrecroisent avec les 0, on a le
plus vieux, c'est l'ancien Brioré, je crois.
Oui.
C'est l'étiquette la plus classique aussi.
Le grain d'amour, on a carrément une étiquette qui est en losange. Le domaine Belcasse, on est sur des couleurs très actuelles. Là, on est sur le vin bio. C'est très, très tendance. C'est-à-dire que vous avez des gens aussi qui, au marketing, savent bosser, quoi, sur les tendances actuelles du graphisme, quoi.
Mais il faut être en constante remise en question au niveau du marketing. Il faut pas hésiter à, lorsqu'on a un vin qui descend un petit peu au niveau des volumes,
se demander pourquoi
et repartir sur des bonnes bases. Alors le marketing, ça peut être l'étiquetage, mais ça peut être aussi tout ce qui est opération commerciale, tout ce qui est dynamique commerciale.
Mais voilà. C'est l'image du vin d'une façon générale qui s'est rajeunie. Vous êtes mis là-dedans, c'est-à-dire qu'à une époque, je pense qu'il y a des caves coopératives que d'autres gens qui n'ont pas su.
Pas seulement, pas que les caves coopératives.
Oui, et pas que les caves. Non, mais pas que les caves coopératives, hein, d'ailleurs aussi des vignerons indépendants.
Mais il y a aussi le fait qu'on ait une gamme et qu'on ait essayé de se démarquer un petit peu sur certains produits de ce que font l'ensemble des autres viticulteurs. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde pour avoir un produit qui se vend.
Mais là, vous aviez quand même la typicité du terroir qui n'était pas facile. Voilà. Qui n'est pas facile à défendre. Ces vins. Qui ont une image de vin dur, de vin âpre, de vin noir. D'ailleurs, vous avez appelé ça, il y en a un, c'est le vin noir. Donc, vous avez poussé le bouchon jusqu'au bout. Le vin noir, c'est quand même, bon, faut le faire.
Ça fait partie de nos belles sorties commerciales.
Ils sont comme nous, on n'est pas des gens faciles, les vins non plus, c'est pas des vins faciles.
Très bien.
Tu as compris les messages.
Allez, on va continuer dans quelques minutes avec toujours, donc, le printemps du Brûlois dans Qu'est-ce qu'on déguste ?
Le bide.
Un
tout petit truc.
Une fois, le bouchon était collé.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Pardon, vas-y, c'est parti. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Le printemps du Brûlois, c'est les 16 et 17 mai. À cette occasion, CFM délocalise l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste. On est dans l'arrière-salle du caveau de Donzac, de la cave des vignerons du Brûlois.
L'arrière-salle, c'est la salle de réunion ou la salle
de...
C'est la salle de dégustation pour les professionnels.
Voilà. C'est pas une arrière-boutique, là.
Et pourtant...
En plus, on a droit à un très bon pâté jusque-là, et puis je vois qu'il y a un foie gras qui arrive derrière.
C'est pas un pâté, monsieur, c'est des rillettes au foie gras.
Rillettes au foie gras.
Tu vas pas sentir, Rémi.
Ça t'en dit professionnel.
C'est un très bon pâté, finalement.
Tu l'as pas senti.
C'est du pâté jaune.
Non, j'ai bien senti que dans le pâté, il y avait du foie gras. Mais enfin. Donc, tu sais, chez moi, on a toujours appelé le foie gras le pâté jaune.
Non.
Le pâté.
Non.
Mais non, mais quand vous en avez tous les jours à table, c'est pas ce mois le pâté.
Ah oui, mais bien sûr.
C'est ça le truc surtout.
Je comprends mieux.
C'est un peu espagnol.
Alors, c'est rillettes et ce foie gras.
Donc, c'est des rillettes et du foie gras qui sont faits par un producteur qui est dans le 47. Et qui est en vente dans nos caveaux, puisque nous avons aussi des produits régionaux.
D'accord.
Voilà.
Mais il est vigneron aussi ou pas?
Pas du tout, non, il est producteur de foie gras, producteur de pâté, comme tu dis.
Sur l'appellation.
Il est aux alentours d'Agen, me semble-t-il.
Je crois qu'il n'est pas sur l'appellation. Je n'ai pas son adresse.
Tu peux acheter de l'Armagnac aussi à côté, je te signale.
Ah oui, c'est vrai, j'ai vu, oui.
Mais oui. Non, mais tu as des produits locaux, c'est normal. Ouais, t'as...
Pas low cost.
Le touriste qui passe par ici, il a envie de vin, mais il a envie justement peut-être d'autre chose. Au passage, de ramener des cadeaux.
Du prunon, du pâté, de l'armagnac.
Tu remontes dans sa Belgique.
De l'huile.
Les produits qu'on a, c'est des produits qui sont vraiment très locaux, dans des rayons de 20-25 km autour de la cave maximum. Hein. On ne va pas chercher des produits ailleurs. Et bon, on a des produits qui ont une qualité gustative. On n'est pas, on va dire qu'on regarde le prix, mais en second lieu.
On cherche la qualité.
On essaie d'avoir plutôt la qualité que le prix.
C'est très très bon.
Je ne sais pas si on a entendu Oriane tousser. Oui, on l'a entendu.
Donc c'est la maison Julien, les délices du Bourdieu, qui sont dans le 47 à Durance.
D'accord.
Et qui sont pas exposés, mais vendus chez nous dans nos magasins.
Donc ici à Donzac et puis aussi à l'Erac.
Tout à fait.
Il y a du passage.
Oui.
Ouais. C'est vous quantifiez à peu près le nombre de clients par jour parce que j'ai vu tout à l'heure quand on est arrivé, il y avait un camping-car par exemple.
Il y avait un camping-car.
Après, il y avait un stop.
Il y avait un camping-car. Après il y avait des Marseillais.
Des Suédoises qui sont venus acheter.
Celles-là je les ai pas vues moi. Là je les ai pas vues.
Ouais ouais.
Par hasard.
Des Hollandais ou des Hollandaises.
C'est pour ça que tu étais tout seul au comptoir.
Et ça veut dire que c'est quoi?
J'attendais qu'elles reviennent.
C'est une clientèle de touristes.
Il y a du tourisme, oui. Il y a du tourisme de passage.
Et les locaux, ils viennent ici aussi.
Il y a aussi des gens de la région, oui. Des gens du 82, du 47.
Parce que vous vendez aussi en vrac. Donc
oui, vous faites du vrac.
On
peut venir avec son cubi, vous nous remplissez le cubi.
On le fait encore.
Pourquoi encore?
Parce qu'il y a encore de la demande.
Non, mais oui, mais ça n'a pas l'air de plaire à Monsieur le Président.
Non, c'est pas que ça ne plaise pas. C'est qu'on le fait tant qu'on a le produit pour le faire. Mais on en a de moins en moins de ce produit, des produits basiques, on en a très peu.
Du 11 degrés, du 12 degrés, des choses
comme ça. Du vin de table en fait, maintenant on l'appelle le vin de table français. C'est pas le produit qu'on demande de faire au viticulteur, donc le viticulteur petit à petit il abandonne ce genre de...
Mais ça c'est encore une fois, c'est un produit spécifique que vous faites, c'est pas un débordement de cuve, vous mettez pas le rosé Béaba, vous le mettez pas en vrac. D'accord, c'est un table spécifique que vous faites.
Dans les viticulteurs, tu en as qui font du très haut de gamme, et ensuite tu as des viticulteurs qui ont quelques rangs de vignes, eux qui font un peu plus de tout venant. Il faut de tout en fait.
Quelques viticulteurs qui font ça.
Mais effectivement, on en a de moins en moins, et effectivement, c'est plus trop ce qu'on
recherche. C'est la marge, c'est pas ce qu'on cherche.
La consommation de ce vin-là a baissé aussi.
Oui, ah, tout à fait. Les gens recherchent.
Notre ami Guillaume Vera, qui est en Fronton, qui vend sur les marchés de Montauban et de Montèche, eh bien, par marché à Montauban, il doit passer à peu près 300-400 litres de vrac.
De supérieur.
Ouais. Enfin, il a plusieurs qualités, du 11 degrés ou du 12 degrés 5.
Il aurait fait le même travail il y a 30 ans, il n'en aurait pas. Il aurait eu un chiffre de plus.
Peut-être.
Il aurait eu zéro derrière.
Mais il liquide souvent, moi j'y vais vers 11,5. Il y a un supérieur, il n'y a
plus. Je...
À 2 euros
c'est
le litre.
C'est le seul, non, sur le marché.
Non, ils sont plusieurs. Non, sur le marché, t'en as un, d'autres. Ils sont trois sur le marché à faire du vrac.
Et ça marche,
c'est vrai.
Ça marche.
Oui,
Il y a alors, Thierry Robin qui vend son...
Est-ce que c'est un vin de marché, plutôt le vrac? Je vois par exemple, tiens, au domaine de Monteil, ils ont effectivement une grosse vente de vin en vrac. Hein.
Oui, on pourra faire un débat sur le vrac. Une émission spéciale.
On pourra faire.
Pour l'instant.
Mais vous seriez étonné.
Pour les dégustations.
Non, mais vous seriez étonné parce qu'en vrac, on appelle vrac beaucoup de choses. Il y a le vrac à la tireuse, mais il y a aussi le vrac en bib, les bag-in-box.
Ouais.
Et vous seriez étonné de la qualité de certains bag-in-box.
Un mini-cave.
Ouais. Les mini-caves.
Les mini-caves. Le bib.
Ah oui, c'est vrai que nous avons un président qui est réfractaire à tout ce qui est terminologie anglaise.
La mini-cave.
Non, la mini-cave.
Je trouve que la mini-cave, ça ne va pas faire de mal.
La mini-cave, 5 litres.
C'est comment s'appelle-t-il dans les vins des coteaux et terrasses de Montauban
Juan.
Notre ami Juan Kervin.
Mas des Anges.
Mas des Anges qui lui appelle ça le bonheur en boîte.
Le bonheur
le bib. Le bonheur intérieur brut. Oui.
Voilà, le bonheur intérieur brut.
Et donc, ils vont pas
des bibes, mais du bonheur intérieur brut.
C'est voilà. Pas la mini cave.
Très bien.
Un petit détour du côté de chez Monsanto ou de chez Neil Young.
Exactement, on va retrouver le chanteur canadien Neil Young. Il existe encore des artistes engagés, une belle preuve, le grand Neil Young qui du haut de ses 69 ans s'engage contre le monstre agroalimentaire Monsanto.
Monsanto.
Tu rappelles Monsanto? Tu le rappelles un peu.
Monsanto.
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 Tu le rappelles un peu, Pascal? Quel est ce monstre?
Oh bah,
Monsanto,
tout le monde connaît.
Roundup,
c'est le Roundup.
C'est le fameux Roundup et de certaines semences OGM.
Voilà. Il veut le faire savoir à musique. Il sortira le 16 juin prochain un album intitulé The Monsanto Years. Lucas et Mika Nelson, les fils du chanteur de country Willie Nelson, seront aussi de la partie puisqu'ils partiront avec Neil Young en tournée américaine en juillet. Le songwriter, donc, qui a presque 70 ans, conserve une productivité remarquable. Deux albums sortis l'année dernière. Il sort de temps en temps des disques spécifiquement consacrés à des thématiques d'actualité qui lui tiennent à cœur. En 2006, par exemple, il avait fait Living with War, qui se voulait une dénonciation des guerres de l'administration Bush. Neil vient aussi de critiquer la mode des disques vinyles, puisqu'il nous rappelle que les vinyles actuels sont fabriqués à partir de masters numériques, les mêmes utilisés pour les CD. Pour lui, donc, cette mode serait une entourloupe des maisons de disques pour amasser un peu plus d'argent. Il a aussi lancé l'an dernier la plateforme de téléchargement et son propre lecteur numérique Pono, dont le but est d'éradiquer ce qu'il considère comme une lèpre pour la musique, la compression de données du format MP3. Il veut donc concilier le numérique et la haute fidélité. Neil Young donc est toujours très actif et d'actualité. On écoute un classique de Neil Young derrière.
Remets-le au début, il est trop bien ce morceau.
Très
tranquille.
Hein,
derrière,
très
et tranquille. Moi, voilà,
Neil Young.
C'est beau, c'est juste beau.
Ah oui, c'est beau.
Santé, tiens, très bien d'ailleurs. Qui doit connaître le Brûlois, puisque. Bah oui, il est
canadien, mais pas québécois plutôt.
Ouais, mais il fait des tournées dans le monde entier.
Toronto,
ouais,
oui.
Et puis il va être. Non, il était. Où il va être
raté.
Je sais plus, Aurélien. À Albi, il y a été ou il va y être?
C'est Bob Dylan.
C'est Bob Dylan. Il y Merci. Était, Neil Young, il y a deux ans, je crois.
Oui, avec CSNNY. Stills and Nash and Young Boys. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising. Let's go.
But now it's getting late.
Moi, je trouve que ça, c'est plus doux, ça a un goût.
Ah ouais.
Plus.
C'est bon. Un tourain. Voilà,
un
tourain.
Un tourain.
Quand il est cadré tout frais, comme on était là, on a fait un
pareil. Au four avec de la glace.
De la glace au
foie.
Oui, oui.
Ça va.
Ah mais là en chemise là tu le mets comme ça. Mais oui, mais oui, c'est bon.
Là mais là comme aujourd'hui à Rennes, tu vois, sur l'heure de clou.
La belle voix et l'harmonica du grand Neil Young, donc qui sort le 16 juin prochain son album Attaque contre Monsanto, The Monsanto Years.
J'adore son accent, on dirait vraiment Georges.
Presque Georges.
The Monsanto Years. L'année Monsanto, quoi, donc. Hein, c'était Monsanto ça. Years. Ou les années Monsanto.
Ah, si t'avais l'accent canadien. Quoi,
voilà. Justement, la cave des vignerons du Brulois. Tous ces vignerons, vous faites attention aux pratiques respectueuses de l'environnement. Est-ce qu'on utilise du Monsanto, du Roundup, des choses comme ça?
Ah, je ne veux pas vous dire que personne n'en utilise, mais ce que je peux vous dire... C'est que depuis de nombreuses années, on travaille en lutte raisonnée. Personnellement, moi, depuis 1996, j'ai adhéré à ce système. Et aujourd'hui, la plupart des vignerons adhèrent au système lutte raisonnée. Bon, il y a le bio et il y a la lutte intégrée. Lutte raisonnée, c'est en collaboration avec la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, qui intervient sur la partie aussi Lot-et-Garonne, et qui intervient pas
gentil,
seulement.
Vous savez qu'il est super gentil avec vous, parce que normalement, quand quelqu'un lui dit lutte raisonnée, il dit
Je vais expliquer.
C'est un président, je rentre pas dans le lard de tous les présidents. Je le laisse parler, et après, on va s'expliquer.
Je vais expliquer. C'est des gens qui sont conventionnels. Et j'allais finir de dire que la plupart des vignerons dont on parlait tout à l'heure, qui sont aussi des vignerons indépendants, travaillent de la même façon que nous en lutte raisonnée. Alors, la lutte raisonnée, je me doute que vous avez posé quelques questions, mais c'est du conventionnel, on est bien d'accord, mais c'est du conventionnel où on essaye de limiter au maximum l'impact qu'on peut avoir. Alors, je ne remets pas en cause, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est très bien de faire du conventionnel, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se décrocher du conventionnel parce que quand on revient sur du bio, c'est beaucoup plus technique parce que moi, dans mon esprit, il y a deux bio. Il y a le bio, le vrai, celui qui travaille et qui obtient des produits qui sont... meilleur ou aussi bon que certains conventionnels. Et il y a le bio friche, c'est-à-dire le bio bobo. Et pour moi, ça, c'est
le bio.
Le bio bobo.
Oui, j'ai bien envoyé ça.
Le bio bobo.
Je pense qu'on se comprend et que pas mal de gens comprennent ce que je veux dire. Et pour bien travailler, pour bien vivre, il faut beaucoup travailler en bio. Et être très très technique. Oui. Je vous assure que
pour que ce soit économiquement viable. Vous appelez le bio bobo, le truc économiquement pas viable. Parce que moi j'aurais tendance à appeler le bio wawash.
C'est un peu du n'importe quoi. Oui. C'est pas pour ça qu'ils travaillent pas en bio. c'est pas pareil. Quoi. C'est pas
ils
pareil.
Sont dans une autre démarche.
En voilà, c'est pas alors, la même démarche.
Si vous voulez, par rapport au vin, il faut bien penser, et ça, je pense que c'est important pour la qualité de ce qu'il y a dans les bouteilles, que bon, la viticulture française représente, je crois, 5% du monde agricole et utilise 20%, voire plus, entre 20 et 25% des produits phytosanitaires.
Donc, c'est vrai les 60% c'est quoi? C'est les arboriculteurs?
Alors, oui, beaucoup les arboriculteurs, beaucoup le blé, beaucoup le maïs, c'est comme ça.
Peut-être l'ail aussi, l'ail.
Peut-être l'ail. Là, ils sulfatent, là.
L'ail rose. L'ail rose.
Ce n'est pas tout ça, l'ail.
Donc, c'est vrai que lorsqu'on est une petite cave à taille humaine, comme la cave de Brulois, qui fait des beaux produits, bien marketés, etc., on peut être d'accord ou pas d'accord. Nous, bon, le grain d'amour, on peut aimer, on peut pas aimer, enfin, etc. Oui. Mais bon, ça fait vivre quand même des vignerons au pays, et ça, c'est important parce que, le paysan, il faut qu'il reste, il faut qu'il soit là. Bon, mais si chaque fois qu'on boit un verre, on doit être malade ou bon, c'est pas la peine. Le combat, il est mort d'avance.
Nous d'abord, on boit nos vins, on boit nos propres vins. On les boit pas tous.
Mais parce qu'on aurait du mal. Vous êtes mitridatisé.
Non.
Mais si on tombe, c'est que.
Pouf. Ce que je voudrais dire, c'est que aussi la lutte raisonnée, ça participe aussi à la rentabilité, parce que si vous voulez, en lutte raisonnée. On utilise moins de produits phyto, sont très chers.
Soyons clairs, la différence entre la lutte raisonnée et la lutte irraisonnée, quoi. C'est-à-dire que normalement,
conventionnel classique,
c'est que on a un calendrier, on cherche pas à savoir, dès que le printemps arrive, on sulfate. Trois semaines après, on cherche pas à savoir, on sulfate. Il va pleuvoir, on sulfate, etc.
Oui, mais je vais
etc.
vous expliquer etc. comment travaille un bio.
Non, mais alors, le raisonné, si c'est quoi?
Le raisonné, c'est le raisonné. On a un technicien qui passe toutes les semaines au bout de la vigne. On va ensemble avec lui dans la vigne et on fait un bilan. Il y a des pièges qui sont mis en place. On regarde les pièges.
Les pièges ici,
Des pièges. À,
la confusion sexuelle.
Pour les bestioles.
Et après, on regarde ensemble la maturité de l'odium, s'il va exploser ou pas. Et en fonction de ça, on met des traitements en place. C'est-à-dire qu'entre ce que vous dites tout à l'heure, l'automatique.
On sulfate à tout va.
Ouais. À tout va. Et ce qu'on fait en raisonné, on divise en gros les traitements par deux.
D'accord.
Donc en ça gros, coûte moitié deux. Moins cher à l'hectare, et on économise 50% à l'hectare.
Et on est aussi bien dans notre tête.
Et
oui.
Parce que,
vos produits se portent d'autant mieux.
Exactement. Et comme vous dites tout à l'heure, il y a aussi la culture, mais il y a toute une structure derrière qui vit. Aujourd'hui, il faut voir qu'on a besoin de tout pour faire tourner la boutique. Et le bio, ça va venir progressivement, je pense. Mais il faut que les gens soient prêts aussi à faire une démarche financière pour que nous, derrière, on puisse produire du bio.
D'abord, pour appuyer ça, Michel, je vais quand même pas casser la gueule au président, parce que le domaine Belcas, qui est dirigé aujourd'hui par son fils, c'est le premier vin bio de la cave du Brulois. Donc on va quand même pas lui casser la gueule. On le fera peut-être plus tard, mais on va lui porter crédit quand même.
Et le grand chêne, qui est mon autre fils, est en train de passer en lutte intégrée. C'est-à-dire que c'est entre le bio et
d'accord.
Et la lutte donc une vraie démarche. Et vous pensez que la cave du Brulois, dans 10 ans, tout sera en bio?
Mais laissez-le finir parce que ça fait quand même un quart d'heure qu'il essaye de dire quelque chose, Michel Delpech, sur le bio.
Ce que je voulais dire, c'est que quand on fait du bio, il y a aussi le fait que quand on fait du bio, on travaille plus dans la vigne. Et
le vin se fait à la vigne.
Si on fait le bilan carbone, je pense que ce serait très équilibré.
Si vous labourez au cheval,
parce que
au cheval, c'est encore plus compliqué. Hein.
Oui, mais c'est encore plus compliqué. Mais on n'est pas au cheval, on est encore avec quelques tracteurs. Mais si vous voulez, en bio aujourd'hui, celui qui est en bio est au troisième traitement aujourd'hui dans sa vigne. La plupart des vignerons en lutte raisonnée dont on parle, conventionnels, sont à zéro traitement. Donc, je veux dire par là que c'est des produits qui sont moins dangereux, on va dire entre parenthèses, puisque c'est du soufre, de la bouillie bordelaise,
du cuivre.
C'est des produits basiques, on va dire, qui n'ont pas été transformés par la chimie. Oui. Mais il y a quand même une intervention qui est beaucoup plus
lourde en termes d'environnement,
beaucoup plus rapprochée. Chaque fois qu'il va pleuvoir, si vous voulez être protégé, il faut faire un petit... Alors, c'est des doses qui sont légères, qui sont homéopathiques. Mais il n'empêche qu'il faut quand même passer dans la vigne. Il faut y aller, quoi. Mmh, et puis, il y a un temps de travail qui est beaucoup plus long. Alors, on arrive à des...
Il y a un impact écologique plus long aussi.
Michel Delpech, vous n'avez pas peur de marcher dans la boue?
Non, sinon j'aurais pas fait ce métier.
Dans le Loir-et-Cher?
J'aurais pas fait ce métier. Dans le Loir-et-Cher, j'ai jamais mis les pieds dans le Loir-et-Cher.
Non, mais il fallait la faire.
Ben oui.
J'en ai une autre.
Il y a bien un moment.
Mais on se rapproche de mieux. Vous écoutez, qu'est-ce qu'on déguste? On est invité. Au printemps du Brûlois. Alors le printemps du Brûlois, bougez pas, c'est pas tout de suite, c'est le 16 et 17 mai. Alors là, il faudra vous rendre dans les deux sites reconnus importants pour le Brûlois. Le premier, c'est celui où on est installé ici, c'est-à-dire c'est là où il y a la cave des vignerons du Brûlois, on est à Donzac. Et il y a un caveau dans lequel on est actuellement. Il y a un autre caveau qui est le cellier du Brûlois. Alors on est à Lérac, là on est dans le Lot-et-Garonne. Le Lérac, c'est un vin aussi. Ah non, c'est le Lirac.
Mais
c'est
Lirac, non, c'est pas du tout.
Ça a rien à voir.
Ça a rien à voir.
Parce que ça fait ça. Chaque fois, ça me fait mal à la tête hein, et au ventre le Lirac.
Oui, normal. Je vais t'expliquer pourquoi.
C'est une histoire de soufre, non?
Oui.
Hein, il y a du soufre beaucoup dans vos vins?
Il y a du soufre. Même dans les bio, il y a du soufre.
Ouais.
Il y a que les vins nature qui n'ont pas.
Non, mais des fois, je dis beaucoup parce que il y a parfois des problèmes de mal à la tête. Hein,
tu le verras demain matin.
Je vais vous donner une réponse. Si vous vous souvenez, il y a 15 ans, 20 ans de ça, quand vous buviez des blancs ou des rosés, souvent, vous aviez plus mal au casque qu'aujourd'hui. Ouais. Et je pense que la quantité joue, mais il n'y a pas que la quantité.
Non, il y a 15 ans, moi je ne buvais pas d'alcool.
Il y a beaucoup moins de.
Dans
l'ensemble, pas que chez nous, dans l'ensemble des vins aujourd'hui, il y a beaucoup moins de soufre. Ouais.
Alors,
qui n'est pas un produit très dangereux, mais qui est allergène surtout. Quoi.
Oui, c'est ça. Il faut faire attention
parce que scientifiquement, on n'a jamais prouvé aujourd'hui une corrélation entre la quantité de soufre, de sulfite ou de SO2 et le mal à la tête. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Mais par contre, il y a plus de sulfite dans les fraises qui viennent d'Espagne que, je pense, dans le vin du Brûlois. Où du SO2, il y en a dans tous les produits. Tous les produits conservés, il y a un maximum de SO2. Et dans des doses qui sont beaucoup plus fortes que les vins. Donc, les pommes, les pommes, il vaut mieux plus en bouffer. Les pommes.
Et des levures, il y en a?
Alors, les levures... Excusez-moi, par définition, la pulpe du raisin
contient
des levures.
Non, mais des levures rajoutées.
Ce que vous avez sur la peau du raisin, ouais. Quand on frotte la peau, après la peau elle devient brillante. Ce que vous avez enlevé, c'est des levures. Donc il y a déjà des levures automatiquement. Mmh. Alors après, nous, je sais qu'on met quelquefois des levures, notamment sur des rosés, ou parce qu'on veut qu'il y ait des démarrages rapides. Mmh. En fermentation, mais c'est pas notre...
Qu'est-ce qu'on rajoute d'autre dans le vin? Il y a les levures, il y a...
Une fois, on avait vu dans une usine à Pinard, on avait vu l'équivalent de je ne sais combien semi-remorques de sucre.
On peut rajouter du sucre.
Alors,
aussi.
J'ai demandé on pourquoi c'était pas, on m'a dit c'est pour le café. Ben, je veux dire, ils en boivent beaucoup de café. Est-ce... Ben, là, je n'ai pas vu. Sucre...
Non, on l'a caché.
Ah, parce qu'on venait...
Non, je plaisante. Je plaisante complètement, parce qu'en fait, justement... Pas seulement chez nous, je défends pas que nous là dans ce cas-là, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, on a des années, vous l'avez remarqué, où les vendanges sont très précoces et où on a plutôt des années étant précoces et chaudes, on a des vins qui n'ont pas besoin de sucre puisqu'ils en ont déjà presque trop. On a des cuvées comme l'intéressance qui sont à 14,5. Imaginez-vous qu'on ne s'est pas amusé à rajouter du sucre. Et sur les rosés, on est heureux quand on a des rosés qui font que 12 degrés ou 12,5. Parce qu'on ne cherche pas, à avoir des vins très alcoolisés. Mais c'est vrai que pour avoir des vins charpentés, des vins solides, il faut que les raisins soient mûrs. Il faut que la vigne soit allée jusqu'au bout dans le mûrissement de son raisin. Donc, on a beaucoup de sucre. Et le sucre, ça fait
de l'alcool.
Voilà. Et on ne met pas de l'eau dans le vin.
En 2014, on a eu des tanates avec la concentration avec le vin d'OTAN qui arrivait presque à 15 degrés. Ouais. On n'a pas besoin de sucre. Hein.
Ouais. Et des tanins, on peut rajouter des tanins?
On doit pouvoir, mais bon.
Non, après, mais il y en a. Je dis, on en rajoute ou pas
les vins qui passent à Maric, il y a un rajout ouais. automatique. Mais
le
bon,
copo.
Après,
le copo. Non. Et le copo, il y en a des copos.
Le copo, c'est pour la litière du cheval quand ils font le labourage avec
le cheval.
Pas de copo.
Bon, pas de copo, pas de tanin.
Non, mais le tanin, imaginez-vous si on rajoutait des tanins dans les vins brûlois.
Un petit vin noir avec du tanin.
Faudrait s'accrocher, s'accrocher un peu à l'herbe.
Flash détente
Non, je sais pas. Non, moi je connais pas ça. Non.
Il a dit qu'il aimait pas les mots anglais, flash détente.
Kézako, flash détente.
Non, tu confonds avec flash dance.
Kézakel, flash détente. Pas de...
La cave du brûlois n'est pas. Enfin, les vignerons du brûlois, c'est pas du vin techno. C'est du vin.
Non,
c'est du vin Charleston.
Non, d'abord parce qu'on n'a pas des quantités énormes, donc on fait des vins, comme je vous ai expliquer, qui plaisent peut-être pas à tout le monde, mais qui ont leur personnalité. Et on ne cherche pas à faire des vins.
Le flash pourrait se faire, mais sur les petites cuvées, mais le problème, c'est qu'il faut. C'est un gros investissement et on n'a pas les volumes pour.
Vous pourriez sous-traiter.
On n'a pas les moyens.
C'est vraiment très cher.
Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite, messieurs, dames, on va parler d'asperges, on va parler d'ail de Lautrec, on va parler.
D'une exposition à la médiathèque.
De vinyle. Et bien sûr, on va continuer de déguster. Des vins du Brûlois pour parler de ce printemps du Brûlois qu'on fête déjà un petit peu à l'avance dans cette émission. Ce sera le 16 et 17 mai. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Comment ça, vous n'avez pas encore compris qu'on était à Donzac ? Eh ben oui, l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste s'est déplacée à la cave des vignerons du Brûlois. Il paraît qu'ils sont 80, les vignerons du Brûlois. Il paraît qu'ils sont 21 salariés à la cave des vignerons du Brûlois. Il paraît qu'il y a deux points de vente incontournables pour ce printemps du Brûlois. Celui où nous sommes actuellement à Donzac et l'autre qui est situé dans le Lot-et-Garonne à Léra. Il va se passer plein de choses les 16 et 17 et Oriane va nous en donner le détail dans quelques instants. Mais avant cela, nous allons d'abord trinquer si vous voulez bien, puisque on a basculé sur un autre vin de la gamme où il y a plus de 14 références hein, chez le Brûlois. Et là, on est sur le bio, le seul bio, le domaine Bellecasse. Petite présentation du domaine Bellecasse.
Donc, le domaine Bellecasse, Michel, vous m'arrêtez si je me trompe. On est sur un domaine d'environ 8 hectares. On est plutôt donc avec un vigneron, donc Laurent, qui est un vigneron très assidu sur le bio, sur sa culture occitane, sur
on l'avait reçu, il avait chanté en occitan.
Voilà. Donc on est chez quelqu'un qui est très charmant et très jovial, et il a un vin qui en fait lui ressemble beaucoup et très atypique aussi, puisqu'en fait on est avec une majorité de fer cervadou. C'est un cépage que vous retrouvez généralement dans les vins du Brûlois en très très minorité. Là vous en avez quasiment 70% avec 30% de merlot. Voilà. Pour rentrer dans la AOC Brûlois, petit à petit Laurent plante du tanate, mais ça arrive petit à petit.
Alors, particularité du domaine Bellecasse, le domaine Bellecasse, ça veut dire beau chêne en occitan, en oc. Et il y a aujourd'hui un concours du plus beau chêne de France.
Du plus bel arbre.
Du plus bel arbre, oui, c'est vrai, c'est pas que des chênes, il y a de tout. Du plus bel arbre de France, et donc dans le sud-ouest, en Midi-Pyrénées, il y a le chêne du domaine Bellecasse. Donc c'est un chêne de plus de 700 ans, un énorme, c'est une bestiole.
Bel arbre. Moi, c'est le même chêne que Château Grand Chêne.
Oui, c'est...
C'est le même.
C'est le même chêne. Qui est dans l'individu, on va dire.
Voilà. D'accord.
Ils sont d'un côté, c'est à eux,
c'est
et
deux
de l'autre
frères.
Côté, c'est à l'autre.
Non, mais voilà. C'est deux frères. Donc, il voilà. Y en a un, il a Château Grand Chêne, et l'autre, il a Bellecasse.
Et donc, on peut voter sur le site internet adéquat.
On a voté
pour
vous pouvez aller sur Facebook, retrouver justement pour voter.
Voilà, le chêne, lire ce chêne.
Le chêne représente Midi-Pyrénées au concours national.
C'est énorme, c'est un truc. Allez-y, cliquez, votez.
Alors ces asperges.
Les frangines aux asperges, enfin, nom de Dieu. Les asperges, là, on démarre la saison. L'asperge, c'est un turion.
Pourquoi tu dis les frangines aux asperges?
Parce que début 20e, dans l'argot parisien, on disait les frangines aux asperges, parce que les petits voyous qui faisaient les macs, ils disaient les frangines aux asperges, parce qu'il fallait aller faire bosser les bonnes femmes sur le trottoir. Donc les frangines aux asperges, voilà, c'est tout. C'est marrant.
Il l'améliore d'année en année.
C'est vrai qu'on dit aller aux asperges.
C'est plus romancé.
On prend de l'assurance.
quand tu t'es levé hors antenne tout à l'heure pour aller rincer ton verre, je leur ai expliqué, vous allez voir, ça fait quand même 7 ans que cette émission existe. Je pense que ça fait 6 ans au moins qui nous fait le coup de l'asperge,
les frangines, ça fait toujours rire tout le monde. Et puis nos auditeurs sont pas obligés d'écouter tous les ans, enfin la même émission, enfin voilà, bref.
Donc tu peux recycler.
On peut recycler vraiment facilement. Donc les asperges, en ce moment sur les marchés, c'est la pleine saison de l'asperge. Ici dans cette plaine de la Garonne, il y a beaucoup d'asperges qui poussent. Donc l'asperge, c'est alors deux sortes d'asperges, la verte et ensuite la blanche ou la violette. Hein, c'est à peu près l'asperge d'Argenteuil et puis après l'asperge verte. L'asperge, c'est en fait les pousses, le turion d'une griffe que l'on met dans le sol. On bute. On fait une motte au-dessus et ça pousse, voilà, pour aller chercher la lumière. Et quand ça fleure à peine, eh bien, si on veut de l'asperge violette ou blanche, eh bien, on va chercher avec une espèce de gouge la tige, on va la casser à peu près à 20, 25 centimètres, 30 centimètres dans le sol. Donc, elle est blanche, elle est tendre, etc. Et puis, si on la laisse pousser...
Comme les endives.
Hein, à peu près comme une endive. Et donc, ça se force au noir, dans la terre. Et si on la veut verte, eh ben, on va laisser dépasser. Et puis là, elle va commencer, si on la laisse, elle va monter en graine. Et après, ça fait une espèce de truc qu'on envoie dans les champs, là, au mois de...
Comme une grande fleur blanche en rosace. Voilà, c'est très joli, ça.
Donc, l'asperge. Alors, l'asperge, c'est un légume très tendre.
C'est un légume, oui.
D'accord. C'est une pousse. D'ailleurs, le mot asperge vient du latin asparagus, qui veut dire jeune pousse.
Voilà.
Il faut l'éplucher parce que
quand même,
on va acheter. Alors l'asperge est un légume qui est toujours cher. Hein, ça, c'est depuis des années, des années. C'est toujours entre 5 et 7 euros le kilo. 7 euros en début de.
La blanche est plus chère que la verte.
On trouve de tout. La belle asperge.
La capitale de l'asperge, c'est du côté de Bordeaux par là. Hein.
Fargue. Voilà. Et il y avait l'asperge d'Argenteuil.
C'est Fargue.
C'est dans les Landes de Lot-et-Garonne.
Les Landes, parce qu'il y a un sol sableux. Voilà. Lot-et-Garonne, il y a aussi un sol. Il faut un sol très aéré.
Il y a la fête de l'asperge là-bas.
Tu peux pas faire de l'asperge dans de la boulebène, par exemple. Ça marche pas trop bien. Donc il faut des sols sableux. L'asperge blanche-violette, c'est l'asperge d'Argenteuil, à côté de Paris, qui aujourd'hui est remplacée par une ZUP, une ZAC, etc., etc. Donc il y en a plus. Mais la variété est restée. Donc, on achète l'asperge chez le producteur ou sur le marché, donc entre 5 et 7 euros aujourd'hui, entre 4,50. Enfin, on peut prendre des poignées de verte, comme j'ai fait la semaine dernière, ça coûte 1,50 €, une belle poignée. On la fait cuire comment? D'abord, on la pèle, parce que tout autour de la partie charnue, il y a une peau qui est quand même assez épaisse, non digeste, donc on va la peler avec un économe. On la fait cuire comment? On la fait cuire dans de l'eau salée bouillante, et on va la faire cuire debout. Donc un peu comme
c'est ce qui est à la mode, c'est à la plancha aussi. Alors, beaucoup d'avis.
Je vais y venir, on va.
Ça c'est plus la verte que la blanche. Voilà. Là, il parle de la blanche. La blanche bouillie, voilà. La verte. Donc poêlée quoi.
On va la faire bouillir, on va la
non,
faire.
Moi je te la fais en 30 secondes moi ça chronique.
Oui mais tu n'es pas moi. Alors on va la faire bouillir à peu près 15 à 20 minutes. On la rafraîchit sous l'eau fraîche, donc sous l'eau froide pour la raffermir. On l'égoutte. Pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui va sortir. L'eau de cuisson des asperges, on va la garder.
Pour
Parce qu'on va, le soir, on va la faire bouillir, on va y rajouter un œuf, de la crème fraîche, et on a un bouillon d'asperges, une petite soupe, petite crème d'asperges qui est vraiment délicieux. Simple truc, c'est quand tu vas pisser, tout le monde sait que tu as bouffé de l'asperge.
Mais oui, ça fait travailler les mains.
Mais par contre, c'est excellent, c'est diurétique. Après les vertes ou les jeunes, les asperges violettes ou blanches qui sont fines, on peut effectivement sortir les tronçons, juste les pointes, les faire revenir à la poêle. avec, comme on disait tout à l'heure.
Entière.
Non, on garde le bas pour la soupe ou pour la crème d'asperge, le haut que l'on fait revenir à la poêle, dans du beurre ou dans de la graisse d'oie. Et là, on peut casser des œufs, par exemple, pour faire une omelette aux asperges. Mmh. C'est absolument délicieux.
Risotto, elle disait, Aurélie.
Un risotto, on peut le manger avec des pâtes à l'italienne, des pointes d'asperges vertes comme ça, avec de la pasta. C'est à tomber.
Et alors, une poêlée d'asperges comme ça, où ce qu'on mettrait de l'ail de Lautrec.
Quelle belle idée.
Non, pas de Lautrec. C'est mieux que le Lautrec. Le Lot-et-Garonne, du Gers. C'est parce qu'on est un peu chauvin.
Parce qu'avec ça, évidemment, on va boire... Qu'est-ce qu'on va boire? On va reprendre un petit peu de Belcasse.
Avec l'asperge...
Il faut ouvrir le terre essence quand même.
Avec l'asperge, on ne boit rien. On boit de l'eau. Soit ou alors un vin blanc type...
Oui, mais si on le mélange avec un peu d'ail.
Condrieux, chose comme ça. Ça va être très délicat avec l'asperge. C'est vraiment... voilà. Des vins très fins, donc... Un condrieux, si on en a, c'est pas donné, ça vaut 30 ou 35 euros la bouteille. On peut boire de
décidément,
l'eau.
Décidément, l'asperge, ça coûte cher.
L'asperge est un mets vraiment très cher. Ah, oui. Donc, les frangines, allez aux asperges pour qu'on puisse goûter
Allez, l'asperge. Bravo. Il a placé.
On peut boire un rosé aussi avec les asperges.
Éventuellement. Rigueso, vous êtes producteur d'ail également. Vous êtes vigneron, mais vous êtes également producteur d'ail.
De père à un fils, depuis trois générations, on va dire.
Donc, je dis de Lautrec parce qu'en fait, pour l'appellation, c'est la référence pour cet ail rosé, quoi, un peu violet là.
Alors, chez nous, il se produit de l'ail blanc et surtout, on a viré vers l'ail violet. Et l'ail violet,
l'ail blanc, c'est plutôt Beaumont de Lomagne.
Beaumont de Lomagne et on fait de l'ail rouge de Cadour. Voilà, la variété, c'est comme ça. Donc, pourquoi? Parce que à côté de la vigne, juste à côté, cette année, il se trouve qu'on a du merlot où on va produire pour le vin noir. Vous sachez que le vin noir est fait de trois cépages. Le merlot, cabernet et tanate. Donc chaque producteur a une parcelle donnée ou des parcelles données. Et je reviens à l'ail. Juste à côté, cette année, on a l'ail parce que où pousse l'ail va venir la vigne. Et vice versa. Des terrains argilo-calcaires, bien exposés, caillouteux, drainants. Et voilà, on produit de l'ail depuis trois générations. Qu'on vend sur les marchés. Là, et on a commencé à le vendre ce matin.
Ça se ramasse à la main, l'ail.
Oui, parce qu'on avait les pieds, on n'est pas arrivé.
Bon, d'accord. On est c'est comme ramasser les cerises avec la queue. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est très difficile.
Voilà. Et vous le vendez ici. Parce que moi, ce qui m'a toujours étonné avec cette histoire de l'ail... C'est que ici, on est au pays de l'ail. Alors, moi, j'ai jamais trouvé que c'était très cher d'acheter une gousse d'ail au marché. Mais j'ai quelques amis qui sont un peu dans l'est de la France ou dans le nord de la France et qui à chaque fois me disent mais tu peux pas faire un camion, Rémi, tu nous emmènes de l'ail parce que chez nous c'est super cher. Pourquoi vous faites pas une exportation vers au-dessus de la Loire?
L'ail est un condiment, donc on n'en a pas besoin de beaucoup et des gens qui font du commerce l'ont tout compris. Vous n'allez pas acheter 10 kilos d'ail, vous achetez une tête d'ail.
Oui.
Et vous avez une tête d'ail, vous allez la payer 2 euros, vous voyez, c'est cher et c'est pas cher. Mais chez nous, 2 euros, vous avez une livre ou un kilo d'ail. Voilà où c'est.
Oui.
Plutôt une livre.
Oui, voilà. Oui.
À 2 euros, plutôt une livre. Oui. J'en prends dessus.
C'est clair, c'est clair. Léa, moi, je pars en production.
C'est
ça. Oui, c'est vrai.
Voilà, donc, c'est pour dire où vient l'ail, vient la vigne qu'on va produire aussi nos produits.
Et alors, comme il nous a fait une recette sur l'asperge, vous, l'ail, vous l'aimez comment?
Vous savez,
alors, le tourin, l'ail en chemise.
Chez nous, d'abord, il y a de l'ail sur la table toute l'année. Après, en ce moment, on a juste commencé, les goûts sont à peine formés, on le mange à croque-selle. Avec un pâté de campagne et une saucisse sèche, c'est génial.
Ah ouais, vous envoyez cru comme ça de l'ail à la croque-selle.
Exactement.
Ah ouais,
ça,
quand même,
c'est bon.
Ils sont rudes quand même chez les Rigueso.
Non, mais.
Il faut que
je vous ai dit qu'on n'était pas des gens faciles.
Il faut que tout le monde en mange ou personne.
Après, vous prenez la tête, on la coupe en tranches de 5 mm, vous le passez sur la plancha avec une goutte d'olive dessus.
C'est
génial.
Ça, c'est bon.
Dans quelques jours, là, dans 15 jours, 3 semaines, où là, il commence à se former, où les goûts sont formés, où il est presque sucré. Vous mangez ça autour d'une viande blanche, là. Mais la gousse entière. La tête, pas la tête, la gousse entière.
La gousse entière.
Entière. Vous mangez ça comme un bonbon.
Et il va falloir qu'on essaye. Hein. On va essayer. Allez, on va essayer.
Là, on vient de passer l'ail. Maintenant, on va passer au jeune ail.
Mais pourquoi pas? Non, mais moi je suis persuadé que.
Non, mais là, de toute façon, il n'y a que des qualités. C'est très bon, c'est des
plus. Il paraît que c'est bon pour la santé.
C'est bon pour le sang.
C'est bon pour la santé, oui. Alors, moi, je le vends en disant ça vous en ce moment, ça vous revitalise un ménage.
Ça vous revitalise un ménage.
Tu parles, il se voit plus tellement.
Après les asperges.
Voilà, tu manges les asperges de l'ail, c'est revitalisé. Et il manquerait presque les artichauts, mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine
chronique. Parce mais que non, là, on va revenir, si vous voulez bien, à l'objet de notre rencontre ici à la cave du Brûlois. Et pendant que, ce que je propose là, pendant que Michel Delpech nous sert le terre-essence. Ah ben allez-y, ouvrez-le, vous pouvez là, parce que... Oriane, elle va nous donner le programme du week-end du 16 et 17 mars. Mai. N'importe quoi. Ça y est, ça commence. Le printemps du Brûlois.
Donc, sur le printemps du Brûlois est prévu, comme vous a dit Rémi, le samedi 16 et le dimanche 17 mai. Donc, le samedi 16, vous avez une visite de chaque chez. Enfin, une visite des nouveaux chais même de la cave de Donzac. Vous pouvez aussi en suivant déguster les nouveaux millésimes. Donc là, on a dégusté aujourd'hui les nouveaux millésimes de rosé, donc 1808, la gamme des Béabas, le Château Grand Chêne rosé, plein de jolies choses. Et vous avez aussi donc tous les produits régionaux. Le dimanche 17 mai. Le dimanche 17 mai, donc ça, les principales activités se feront au Cellier du Brûlois à Leyrac, donc dans le 47, où vous aurez toute la journée un vide-grenier. Vous aurez aussi le petit déjeuner Brûlois-Gascon au Cellier du Brûlois, donc à 9h30, de 9h30 à 11h.
On mange quoi?
On a de la charcuterie.
Des omelettes au
On doit avoir peut-être des... On a des omelettes aux aillettes
oui,
cette année?
Oui, il y en a encore, oui.
Des tripots aussi?
Je sais pas.
Peut-être
que oui.
Peut-être que oui.
Nous serons, mais pas pour tout le monde.
Ah, il faudra être
présent. Ouais. Et alors?
Donc, petite participation de 5€ pour le petit déjeuner Brûlois-Gascon qui se déroulera de 9h30 à 11h à Leyrac. Ensuite, vous aurez de 10h30 à 17h, donc quasiment toute la journée, une dégustation dans le noir. Donc vous aurez plein d'accords mets et vins qui se fera dans le noir pour un peu vous déboussoler les esprits. Voilà. Mmh. Avec Jonathan, donc qui est quelqu'un qui vous commentera super bien les vins, ainsi qu'une association de jeunes malvoyants qui vous orientera dans le noir. Ensuite, de 15h à 17h, vous pourrez vous faire prendre en photo donc par Simon Abiker avec dans nos chais, tout ça, et vous pourrez ensuite déguster les vins.
Qui est Simon Abiker?
C'est un photographe sur Agen.
D'accord, un photographe de talent.
Il vous prend une photo et après il vous envoie votre photo par mail.
D'accord. Mais si vous voulez pas forcément aller jusqu'à Leyrac, vous pourrez rester à Donzac, mais au musée
au conservatoire de la ruralité et des vieux métiers.
Voilà. Donc au musée de Donzac, vous trouverez donc Laurent qui vous fera déguster tout au long de la journée les vins du Brûlois et son fameux domaine de Bellecasse.
Oui, parce qu'il y a la fête du pain en même temps. P.A.I.N.
Un musée extraordinaire ce musée.
Ouais.
Si vous ne le connaissez pas, surtout venez y faire un tour, c'est quelque chose d'extraordinaire.
On voit souvent des animations issues de ce conservatoire de la ruralité sur les fêtes et les vides-greniers durant tout l'été. Et moi, j'ai jamais mis les pieds, ça sera peut-être l'occasion, tiens.
Ah, mais ça, je vous invite à y venir, je vous assure, ça vaut le détour, ça vaut le détour.
Alors... Les vignerons du Brûlois, à un moment, ont essayé le diesel, quoi.
Ouais.
Terre et diesel. Et ça n'a pas marché parce qu'il y a eu le choc pétrolier. Après, ils ont fait terre essence.
Écoute-moi, mon coco, s'il y avait Isabelle, elle te sauterait comme ça, là, tu vois.
Ça te ferait mal,
mon coco. Hein. Parce que terre essence, il faudrait pas lire en vanne, hein, parce que là... Donc, c'est pas vrai?
Non.
Certainement qu'Isabelle trancherait le poirémi, ça c'est sûr. Ah
oui, c'est évidemment une mauvaise blague, mais pour marquer les esprits, parce que maintenant on goûte là le le haut du panier. Hein, on est dans le haut de gamme des vignerons du Brulois avec Terre
Essence. On nous a dit que c'était une cuvée confidentielle.
Ouais. Donc là, tu demandais justement des questions sur les sélections parcellaires ou tout ça. Je t'invite à questionner Guy Riguesso par rapport à ce genre de...
Alors Guy, ça sent les épices, c'est incroyable. C'est...
Parlez-nous du Terre Essence.
Donc, le Terre Essence est issu de trois cépages. Hein,
et de deux vignerons.
Et deux vignerons qui sont sur la commune de Donzac.
Donzac, il doit y c'est avoir proche, un petit borne.
C'est si proche. Hein, ce sont des gens très
compétents.
Et qui ont des vieilles vignes. Donc, c'est Francis Rubin
et Roger
Val. Donc, deux personnes qui sont très, très compétentes dans leur travail et qui nous ont fait ce produit qui est extraordinaire avec, comment dirais-je,
avec
Patrice Kubek, notre maître
donc,
de chez.
Donc, vieille vigne, un vin plein d'épices, un vin rare, combien de bouteilles ?
On a... je crois entre 5 et 6 000 bouteilles sur la cuvée 2011.
Et on ne le fait là, pas tous les ans. On boit du 2011.
Vous buvez du 2011 qui est en fait le premier millésime du Terre Essence.
D'accord.
Voilà.
Quand on sait qu'en appellation, on a une production environ de 60 hecto-hectares, entre 55 et 60 hecto-hectares, là on descend à 25 hecto-hectares. Imaginez un petit peu la concentration du produit.
Plus un bel élevage.
Est-ce que, alors derrière, ça passe un peu en fût de chêne ?
Non, c'est pas nature. Du tout. Michel, qui est proche de ses producteurs, vous en parlez beaucoup mieux que moi. Puisque moi, je suis à une dizaine de kilomètres là, lui va voir ses vignes en cours d'année en permanence. Donc, il va peut-être.
Ah, vous êtes attentif à ce.
Oui.
On est attentif, c'est-à-dire le cahier des charges, il a été élaboré. Et il a été élaboré avec un des producteurs qui fait le Terre Essence, parce que c'est lui qui contrôle toutes les vignes de la cave, quoi, disons en partenariat avec Gilles Bénat, qui est notre technicien Viti.
Donc au niveau des techniciens, en fait, parce qu'il l'a cité tout à l'heure, donc il y a Patrice, donc qui s'occupe, qui est vraiment lui de tout ce qui est général œnologie et on va dire sélection des vins une fois liquides. Et ensuite, vous avez Gilles Bénac qui, lui, en fait, s'occupe plutôt de la viticulture.
Et
tout ce qui est partie aussi administrative du chai, qui est très important.
Parce que tout à l'heure, on a vu le chef de chai aussi.
Oui,
c'est Patrice.
Voilà. Celui qui fabrique les
pieds. C'est ça. C'est ça. Et après, il y a Gilles qui, lui, ils travaillent tous les deux en duo.
C'est
un très bel exemple de belle collaboration entre le vigneron, le technicien Viti et celui qui fabrique les pinards.
C'est exactement le but de ce truc.
D'accord. Ouais. C'est très bon.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que...
14,5.
Eh oui, 14 chevaux et demi.
Sans sucre.
Sans sucre ajouté. Et
14,5, c'est pas le prix. Parce que le prix, c'est...
Ah, ça vaut, c'est 18. C'est 18. Ça les vaut.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Là, on a du 2011. 2012, il n'y en aura pas.
2013, il n'y en aura pas.
2013, il n'y en aura pas. 2014, a priori, oui.
Et ça devrait être joli.
Alors, et quand il n'y en a pas, qu'est-ce que vous en faites ? Vous
quand on n'en a pas, ça fait...
Vous le mélangez dans le grand chêne ou...
Non. D'ailleurs, en 2013, il n'y aura pas de grand chêne, il n'y aura pas de vin noir et il n'y aura pas d'intéressance.
À cause de la graine.
Ils sont réintégrés dans
parce
le 1808 que vous avez vu tout à l'heure.
C'est pas au niveau.
On les déclasse nous-mêmes.
On manquer plutôt que...
On ne fera pas de millésime 2013. Dans ces cuvées-là, vous n'en aurez pas.
Vous en foutez puisque de toute manière, ce qui vous fait vivre, c'est le grain d'amour, quoi.
C'est pas qu'on s'en fout, c'est que ça a toujours été
tradition. Parce que, non, je veux dire que c'est des choix quand même qui sont lourds de conséquences.
Oui, mais bon, c'est comme ça. Si on veut pas décevoir le consommateur, le client, on a choisi cette stratégie depuis toujours.
Après, Rémi, effectivement, il faut pas se voiler la face non plus que effectivement des cuvées comme Grain d'Amour nous permet,
c'est
on va dire, voilà, est une locomotive. Il faut appeler un chat un chat. Grain d'Amour nous permet justement de vendre des rouges, nous permet aussi d'avoir de la qualité et justement pour amener des
c'est une bonne stratégie.
On part on parle souvent de festival. Dans un festival, pour qu'un festival vive correctement, tu vas faire venir une tête d'affiche, un Julien Clerc, un machin, j'en sais rien, un Bob Marley s'il était vivant, mais quelqu'un qui va te remplir les salles. Et puis derrière, tu vas pouvoir faire travailler à perte finalement sur des artistes en découverte.
C'est pareil pour
tu vas pas forcément
musique,
remplir tes salles.
Des locomotives, des artistes.
Le grand amour, c'est votre rosé piscine.
En quelque
sorte. Vous chercheriez plutôt un produit très mode comme le rosé piscine. Est-ce que si vous aviez demain un onolo qui arrive en disant les gars, moi je vous ai trouvé un truc, vous allez en vendre 2 millions dans l'année, vous prenez ou pas?
Bon, on a le grand amour. On va en faire 2 millions petit à petit.
Et qui s'en rajoute à Rome, qui est nature, qui est un rêve.
On n'a pas les quantités de produits pour faire 2 millions de bouteilles.
Il faut écouter
les gens.
Je voulais juste dire que grâce au Tiresens, on est quand même dans toutes les tables, les grandes tables du Lot-et-Garonne, et je pense du Tarn-et-Garonne aussi, sûrement. Et donc, on n'a pas le droit de décevoir les gens qui nous ont fait confiance. Ça, c'est la base.
On ne peut pas décevoir les clients.
C'est la base. Il vaut mieux dire qu'il n'y en a pas.
Ah ben de toute manière après le mec il revient pas, enfin c'est t'achètes une première bouteille, t'es content, la deuxième fois t'arrives chez tes amis avec la bouteille, t'es tout fier, tu l'ouvres et puis en fait
à 18 euros alors là, et là
t'es ridicule à table, t'en veux au mec du brûloir.
Ouais.
Chose que tu retrouves pas forcément partout parce que justement enfin faut pas oublier aussi que c'est bien de vendre des vins à 18 euros, mais il y a des fois aussi des vins qui ne les valent pas. Et des fois, il ne faut pas blaiser le consommateur.
Alors, pour mettre les choses en situation, on parlait tout à l'heure de la production totale de la cave, c'est 1 million de bouteilles. Le rosé piscine, c'est juste le rosé piscine, c'est 1 million de colles.
Oui,
rosé piscine de Vinovali, c'est toute la cave, c'est toute la production annuelle du Brûloir, donc c'est pas du tout la même chose.
Maintenant, après, c'est 3 caves coopératives qui sont
alliées. Bien entendu,
c'est
quatre.
Énorme.
4. C'est des usines à
Voilà.
Bien sûr. Oui, mais
c'est notre sponsor.
Non, mais il fait exprès. Non, mais il fait exprès d'être toujours attaquant avec eux sur le rosé piscine, comme on pourrait l'être avec vous sur le grain d'amour, parce que c'est pas notre dada. Mais on sait très bien que chez nos amis de Vinovali, il y a aussi des vins qu'on adore, notamment la gamme.
L'Astrolabe.
Nous on appelle ça de l'Astrobal.
Le Château Les Bouilles.
Oui, Château Les Bouilles, Astrolabe, etc. Enfin, tout ce qu'on aime dans leur gamme. Mais il y en a beaucoup.
En tout cas, je leur envoie un grand bonjour parce que commercialement parlant, c'est des gens qui sont très intelligents à Vinovali. Voilà. On peut le dire mais ils savent travailler la concurrence et ils savent travailler avec la concurrence. Donc, je leur envoie un grand bonjour.
S'ils vendent 1 million de rosés piscines, c'est qu'il y a quand même une demande, il y a quand même une attente sur le marché. Et voilà, il faut quand même reconnaître que c'est une réalité, quoi.
Justement, cette réalité des nouveaux buveurs de vin, des nouveaux consommateurs avec du rosé piscine, avec du ginger machin, avec du truc à la grenadine,
il y a des vins quand des fois tu rentres dans des supermarchés, t'as des vins, ils sont violets, ils sont roses, et, c'est le truc de l'été.
C'est bien, c'est fait à base de vin, mais c'est pas forcément.
Ça fait flipper quand même un peu. Là, tu te dis.
Est-ce que ça fait un peu plus mal, au niveau du coup. Ce côté-là, ou vous allez plutôt du côté de
bon, on voit bien, ils sont plus du côté de la qualité, quand même. Enfin, du côté du vin.
Ils peuvent être opportunistes.
On n'a pas les produits pour faire ces vins-là, parce qu'en fait, souvent, c'est des rosés à 2 balles, je suis désolé, c'est des rosés à 2 balles qui sont...
Ça vaut plus de 6 euros, je vous signale.
On a rajouté des arômes. Nous, on fait bon le grain d'amour, pour en reparler, mais c'est un vin, quoi. C'est un vin, c'est pas pareil. Oui. On n'a pas rajouté des arômes, donc on n'est pas tout à fait sur la même gamme. Donc
est-ce que vous êtes serein sur l'évolution des goûts des consommateurs sur des vrais vins ou des ersatz de vin à 2 balles avec des arômes?
Je pense qu'il y aura les deux.
Il y en aura pour tout le monde.
Mais récemment, j'avais des jeunes devant moi.
Il y aura encore des nouvelles choses qui vont se créer et dont on n'aura pas...
J'avais du
i20 directement de l'ordinateur avec la clé USB.
J'avais des jeunes devant moi qui m'ont dit qu'ils faisaient leur repas avec du grain d'amour. personnellement, c'est moi qui ai eu l'idée de faire la graine d'amour, mais je n'avais jamais eu l'idée que ce vin pourrait se consommer pendant tout le repas. Pour moi, c'était plutôt à l'apéro, avec un gâteau ou un truc comme ça, d'accord, mais pas pendant tout le repas. Mais je leur ai dit, à part ça, vous buvez quoi? À part ça, on boit du coca. Bon, mais j'ai dit continuer avec le grain d'amour.
Ouais. Oui, il y a autant de sucre dans le grain d'amour que dans le coca.
Non, moins. Non, mais moins.
Ouais. On arrive au bout de cette émission, donc ça veut dire que ta chronique va devenir une annonce.
La semaine prochaine, mais non, mais l'expo c'est jusqu'en octobre, donc il y a le temps.
Mais quelle expo?
À la Mémo à Montauban. Consacré au vinyle, au disque vinyle.
Voilà.
Donc on en parlera la semaine prochaine.
D'accord, on en parlera donc la semaine prochaine.
Bien sûr. Les pochettes de disques, c'est magnifique. Allez-y, c'est super.
Nous en reparlerons.
Oui, donc, la semaine prochaine.
On est plutôt content d'être venu, Oriane, tu vois.
Eh bien, écoutez,
merci.
Le plaisir était partagé.
Guy, merci Michel. Merci Oriane de nous avoir reçus ici à la cave des vignerons du Brulois.
Oh, ben, le 17, alors.
On reviendra les 16 et 17.
16 et 17.
C'est pour le printemps.
On vous attend pour le petit déjeuner gascon.
Ah oui.
Brulois gascon.
Il y a les mousserons, il y a les mousserons à l'ail.
Brulois gascon parce que petit déjeuner gascon.
Au petit déjeuner à l'ail.
Au petit déjeuner à l'ail.
Voilà. Voilà.
Qui vous attend?
Est-ce que venez? À l'ail, on y va.
Merci pour votre accueil. C'était un Qu'est-ce qu'on déguste spécial le printemps du Brulois. Ce sera donc le 16 et 17 mai ici à Donzac et bien sûr aussi à l'Erac.
Pour toute info, consultez Facebook ou notre site internet.
Et buvez du Brulois, je vous recommande, c'est vraiment bon.
En plus, ils font un concours. Tu sais que nous, de temps en temps, on fait un concours où on fait gagner des nuits, un séjour à l'hôtellerie du Vieux Corde. Et bien là, ils font la même chose, mais à l'hôtellerie des Ducs. Et ça se trouve.
À Duras.
À Duras.
Pour deux personnes. Ouais, ouais.
Au merci, merci Aurélien pour la partie technique de cette émission.
C'est toujours le plus sérieux.
la semaine prochaine, si tout va bien.
Salut à tous.
Salut.
Bon week-end. Merci à vous.